7h33, évidemment, depuis quelques jours et depuis quelques heures, on suit attentivement ce qui se passe dans l'État de la Floride aux États-Unis. Il y a un lien, vous le savez, là, très particulier entre le Québec et la Floride. Lorsqu'on parlait des prévisions pour l'ouragan Milton, c'est assez extrême, merci. On y allait avec une situation historique, situation qui allait devenir très tragique aussi, beaucoup de dégâts. Est-ce que c'est en ce moment moins pire ou pire qu'on annonçait? On va jaser de tout ça avec Gilles Brien, qui est météorologue, auteur, chroniqueur, conférencier, spécialiste. Il est au bout du fil. Monsieur Brien, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là avec nous ce matin. Vous êtes sûrement très occupé ce matin et dans les derniers jours, Monsieur Brien.
Un vrai tourbillon.
Ça n'a pas de sens, hein? Commençons avec ce que je disais d'entrée de jeu. On avait eu des prévisions extrêmes là, pour, et on parlait de situation historique pour l'ouragan Milton en Floride. En ce moment, moins pire ou pire que les prévisions?
Bien, c'est un peu ce qu'on prévoyait d'avance, là. Un ouragan catégorie 3 qui a touché une région densément peuplée hier soir à 20h30 dans le secteur de Tampa, une ville qui n'avait pas été touchée depuis une centaine d'années par un ouragan. C'était un ouragan avec des vents de 195 km à l'heure qui ont été relevés. Et juste un petit peu à Saint-Pétersbourg, là, on est à peu près 10 km au sud de Tampa, 405 mm de pluie. Imagine, c'est 4 mois de pluie qui est tombé dans une seule journée. Ouf. Et là, l'ouragan a traversé complètement la Floride. Il n'y a même pas une demi-heure, l'ouragan a émergé du côté est de la Floride, là, au nord de Cap Kennedy, Cap Canaveral. Et c'est encore un ouragan là de catégorie 1, avec des vents de 140, 150 km à l'heure. Donc, le nord de la Floride a été ravagé. Ben, en fait, c'est comme un bulldozer de 100 km de large. Wow. C'était pas un ouragan. Le champ de vent là, des vents d'ouragan n'était pas très, très large. Mais quand même, c'est 100 km là, de large qui a passé comme la gratte là, dans le nord de la Floride. Donc, on va voir les dégâts, les bilans ce matin, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de pluie, beaucoup de... il y avait beaucoup de débris laissés par l'ouragan Hélène, et tout ça a certainement fait beaucoup de dommages.
Monsieur Brien, selon votre expertise, vous êtes spécialiste, est-ce que puis ce que vous avez suivi, est-ce que les autorités ont bien préparé la population de la Floride pour l'arrivée de Milton?
Ben, disons, c'est l'équivalent ici des grosses tempêtes de neige. Là. Okay. Les Américains connaissent la chanson, la musique, là, ils font face souvent des ouragans. Mais là, un ouragan qui rentre par la cour en arrière, ça, c'est tout à fait nouveau. D'habitude, là, un ouragan va traverser l'Atlantique et frapper la côte est de la Floride. Puis la côte est, là, ils ont mis beaucoup d'argent dans les dernières années. Il y a des coupes-lames, c'était fortifié. C'est une région maintenant qui est très, très résiliente aux ouragans. Mais là, tu as un ouragan qui se forme dans le golfe du Mexique, parce que l'eau est très, très chaude, et qui va te frapper de plein fouet. C'est pas un ouragan qui a longé la côte, là. Il est arrivé de façon perpendiculaire. Donc, a créé beaucoup de... ouvert la porte à beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. C'est de l'eau souillée, hein, de l'eau salée maintenant qui pénètre à l'intérieur des terres. Donc, les aqueducs, les maisons, tout ça, il y a beaucoup plus de dégâts avec de l'eau salée qu'avec de l'eau potable. Donc, les dégâts, on va en faire le constat aujourd'hui, mais c'est quand même été dévastateur.
Vous en parliez, première fois en 100 ans qu'un ouragan frappe la région de Tampa Bay. Et là, le fait que ça va traverser la Floride d'ouest en est, est-ce que c'est aussi une première? Puis est-ce que justement ça va amener encore plus de problématiques à la Floride compte tenu que l'ouragan n'a pas la trajectoire habituelle?
Oui, tout à fait, parce que d'habitude, les Floridiens vont se réfugier dans le nord de la Floride là pour se protéger des ouragans qui touchent d'habitude le côté sud-ouest ou sud-est de la Floride. Donc, c'est très industrialisé. On a vu les autoroutes sont congestionnées, les épiceries ont été vidées. Il y a beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, des évacuations aussi. On parle des hôpitaux aussi qui ont été évacués. Donc, beaucoup de gens là qui sont vulnérables. Puis ça dérange beaucoup. Là, ça perturbe pas mal la vie d'un peu tout le monde. Et avec les 18 tornades qui ont accompagné l'ouragan hier, c'était vraiment, là, tous les dangers sont tombés du ciel là, hier en Floride. Là, présentement, ça va se calmer rapidement aujourd'hui et l'ouragan va devenir une dépression tropicale, va passer au nord des Bahamas. Puis on n'entendra plus parler jusqu'à la prochaine, parce que là, on est M pour Milton. La prochaine, c'est la lettre N, c'est Nadine. Probablement d'ici une dizaine de jours, on pourrait voir ça, mais L'important, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le Québec. Ouais. On sait qu'un ouragan en Floride peut nous amener rapidement là, une augmentation des fruits, des légumes dans notre épicerie. On va payer le prix. On a vu même l'essence augmenter après Katrina là, en 2005, quasiment 35 cents le litre là, le lendemain parce que les raffineries avaient été touchées. Là, c'est pas le cas. Il n'y a aucun impact. On a juste un peu de froid qui s'installe au Québec. Là, cette fin de semaine-ci, là, ça descend pratiquement sur le bord de zéro.
Ouais. Monsieur Brien, vous avez parlé des tornades qui accompagnent l'ouragan Milton. Est-ce que ça, c'est un phénomène normal?
Oui, c'est normal parce que des ouragans créent des conditions parce qu'il y a beaucoup d'éléments là, nécessaires à des tornades. L'humidité, des orages, des vents très forts, l'instabilité, il y a du tourbillon atmosphérique aussi qui se rajoute. Donc, c'est pas étonnant de voir autant de phénomènes. Hier, c'était un record d'avertissements en Floride. 90 avertissements ont été émis. 18 tornades ont été observées avec un ouragan par-dessus ça, des vents très, très puissants, destructeurs. La pluie, pratiquement 4 mois de pluie qui sont tombés, là, 450 mm de pluie dans le secteur de Tampa. Donc, tout ce qui manquait, c'était de la grêle ou de la neige, du verglas. Là, ils ont tout eu.
On parle beaucoup des catégories de l'ouragan. Puis là, bon, ça passe de 5 à 3, puis là à 1. Puis là, on se dit, bon, ben c'est une bonne nouvelle. Mais là, hier, je voyais passer des gens qui disaient, attendez, oui, c'est pas une mauvaise chose, évidemment, pour la Floride, mais ça veut pas dire qu'il y aura pas de dégâts. Parce que, puis de ce que je comprenais, puis vous allez être en mesure, bien sûr, de me l'expliquer pas mal plus que je vais le faire. Là, je vais essayer de le résumer, mais ça, les catégories, ça prend en compte les vents, mais tout ce qui est inondation et tout ça, pas nécessairement. Les catégories, qu'est-ce que ça veut dire pour les ouragans exactement?
C'est une échelle pour classer la force des ouragans. Ça fonctionne avec la vitesse des vents. Ça prend catégorie 1, c'est des vents d'ouragan. Ça prend au moins 120 km à l'heure. 120 km à l'heure, là, t'as de la misère à marcher à l'extérieur. Là. Quand t'es rendu à 140, 150 km à l'heure, ben là, conduire une auto, c'est pratiquement très difficile. Les bardeaux s'envolent, les antennes, des petits objets d'un fois sont propulsés au loin. Puis quand t'es rendu à 200 km à l'heure, ben là, des autos peuvent être soulevées. Là. Il peut y avoir des toitures arrachées. Donc, c'est pas juste la catégorie, c'est vraiment la vulnérabilité de la région touchée qui détermine la sévérité d'un ouragan. On l'a vu souvent dans le passé. Il y a des Américains, dans le public, on demande une catégorie 6 ou 7 ou 8, mais les études montrent que ça, c'est pas avec ça que ça fonctionne. Les gens, on est des êtres humains, on fonctionne avec des émotions, puis souvent, c'est pas la bonne manière de prévenir les gens de prendre des précautions.
Monsieur Brion, jase ce matin du passage de l'ouragan Milton en Floride avec le spécialiste Gilles Brien. Monsieur Brien, on a vu des images qui dépassent presque l'imaginaire. Le toit du Tropicana Field, qui est le domicile des Rays de Tampa Bay. Je sais que ça va faire bien des dégâts pour bien des domiciles aussi, mais des fois, ce genre de site touristique-là, ça frappe, comme je disais, l'imaginaire. On peut-tu s'inquiéter pour des dégâts sur d'autres sites, comme par exemple Disney?
Ah ben c'est sûr qu'ils ont beaucoup de structures en hauteur, hein. Et hier, l'ouragan a passé pendant la nuit avec des vents de 130, 150, il y a des rafales aussi avec ça. Et on sait qu'il y a des grues aussi, des sites de construction ont été touchés. Tout ça a sûrement causé des dommages. On va le savoir dans les prochaines heures. Les parcs ont été fermés depuis hier. On va faire le bilan aujourd'hui, c'est certain. On n'a pas fini d'entendre parler. C'est un ouragan quand même qui va rester dans la mémoire de beaucoup de gens en Floride.
Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cet ouragan-là, justement, parce que je ramène ici à Québec où on parle beaucoup de s'adapter au changement climatique, justement, d'adapter nos infrastructures à ces pluies torrentielles-là qui arrivent de plus en plus. Là. Bon, on ne parle pas de 400 mm, on a plus eu des événements de 100, 150 mm là, dans une journée. Mais est-ce que la Floride va tirer des leçons puis modifier certaines infrastructures? Vous nous parliez tout à l'heure qu'on l'a fait sur la côte Est. Est-ce qu'on va étendre encore plus là, ces nouvelles structures-là?
Ben, en fait, c'est un éveil des consciences que ça prendrait surtout, parce que beaucoup de gens sont dans le déni sur le changement climatique. Ça paralyse l'action de ceux qui veulent vraiment s'adapter, s'atténuer. Les études s'empilent là, sur le fait que c'est bien plus payant de te préparer contre des tempêtes que de te dire, de te croiser les bras, puis de te dire si tu vas être capable de passer à travers. C'est pas de même que ça marche. On le voit au Québec, là, on a eu l'été le plus pluvieux qu'on a jamais vu depuis 100 ans. On a eu aussi de la pluie sous forme de déluge. Ici, au Québec, on n'a peut-être pas de tornades comme aux États-Unis, mais on a des bourrasques de neige qui qui cause des carambolages, des beaucoup de victimes chaque année, la glace noire, la pluie verglaçante, tout ça, c'est des phénomènes qui augmentent à cause d'un climat qui est de plus en plus surchauffé parce que il y a un trop plein de gaz carbonique dedans, puis comme dans une serre, quand tu rentres dans une serre, la température est 5-6 degrés supérieure à la température ambiante dehors, mais dans une serre, il y a trois fois plus de CO2 aussi. Donc, on le sait depuis une centaine d'années, quand on met du gaz carbonique dans un volume d'air, ben ton air augmente la température. Puis, au bout du compte, on recueille des phénomènes plus violents, des orages plus forts, des tornades plus puissantes, des ouragans. On l'a vu là, cet été.
Monsieur Brien, ma prochaine question a moins rapport avec la météo, ben en quelque sorte oui, mais plus la psychologie humaine, mais je veux vous la poser quand même parce que vous êtes spécialiste de ce genre de situation-là. On a annoncé à la population, surtout très à risque de la Floride, évacuez, sinon vous allez mourir. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, quelqu'un de rester, parce que je trouve ça complètement capoté, de quand même rester à, puis c'est peut-être la réponse, là, protéger sa demeure quand on devrait évacuer parce qu'on dit évacuez, sinon vous allez mourir?
Ah, c'est un réflexe que les Américains ont. Ils ont peut-être un rapport avec la propriété qui est différent d'ici au Québec. Ils ont peur du pillage, ils ont peur du vol. Les gens se sentent plus sécurs dans leur maison. C'est une fausse impression de sécurité. Puis ils en ont souvent des avis d'évacuation. Ça fait que de plus en plus, ils s'habituent. Puis comme ici au Québec, là, quand on a eu en 2017 un blizzard qui a touché le sud de Montréal, là, il y a eu 300 automobilistes qui ont été pris dehors dans un blizzard extrême. Ils ont passé la nuit dehors. Mm-hmm. Il y avait pourtant plein de consignes là, de Transport Québec, la Sûreté du Québec, ils disaient « sortez pas de chez vous ». Pourtant, les gens ont pris leur voiture pour aller faire leur petite commission, puis aller au dépanneur, tout ça. Bien, ils se sont retrouvés 300 automobilistes coincés dehors pendant 12 heures de temps. Le gouvernement, ensuite, on les a dédommagés. Imagine, je crois qu'ils ont eu un montant de 2 000 $ par personne. Ça a coûté des millions qu'on a donné à des gens qui, finalement, n'ont pas respecté les consignes, les avertissements, les alertes. Ils se sont mis en danger eux-mêmes, puis c'est toute la société qui paye. Donc, c'est un éveil des consciences que ça prendrait en premier là, pour faire comprendre la gravité du problème. Parce que si les gens prenaient vraiment conscience du changement climatique, là, prenaient la vraie mesure, ben on serait tous dehors à matin à faire du bruit avec des casseroles pour demander au gouvernement de faire plus.
En terminant, M. Brien, justement, vous parlez depuis tout à l'heure des changements climatiques, puis je voudrais que vous répondiez à un mythe ou réalité, dans le fond, qu'on se pose ici à Rage Against le matin. Est-ce qu'avec les changements climatiques, il va y avoir plus d'ouragans, puis est-ce qu'ils vont être plus violents?
Non, pas nécessairement plus d'ouragans, mais ils sont plus forts. Et on va les voir dans des endroits où on n'en voyait pas. Parce que changement climatique, c'est ça. C'est des phénomènes qu'on ne voyait jamais dans des endroits, dans des périodes de l'année. Des phénomènes extrêmes. Donc, il faut s'habituer, là. On va en voir, c'est les nouvelles normalités.
Gilles Brien est météorologue, auteur, chroniqueur, conférencier, spécialiste. Monsieur Brien, je sais que vous êtes très occupé. Merci infiniment pour votre temps ce matin. C'était très apprécié comme discussion.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Wow.
Course 101 d'ouragan.
Hey, c'est ce
qu'on vient d'avoir.
C'est complètement capoté ce qui se passe. Oui. Puis j'étais heureux qu'on est allé toucher aussi sur la psychologie humaine.
Vraiment.
Quelle belle réponse par rapport à ça, là, de dire... Tu sais, il faut évacuer, sinon tu vas mourir, puis tu décides de rester ou tu sors quand tu devrais pas sortir. Bref.
Exactement, puis c'est pour ça justement que le discours est peut-être aussi extrême, est aussi extrême de la part de nos dirigeants. C'est parce que les gens ont tendance à rester là. Puis on veut pas que les gens restent là, donc on y va dans un discours plus extrême.
Merci à M. Brien. Dans les prochaines minutes, après la pause, on va jouer à C'est quoi les chances? Puis savez-vous quoi? Je vous laisse... Je vous pose une des questions qu'il va y avoir dans les cinq tout de suite pour y
donc
penser.
Fun.
OK, c'est quoi les chances? Parce que ça a rapport avec la discussion qu'on vient d'avoir. C'est quoi les chances, donc, vous le savez, forte, moyenne ou faible, que tu puisses vivre sans trop fucker ta santé mentale dans un endroit qui est régulièrement à risque de méga dégâts ou d'évacuation, comme on vit en ce moment en Floride, OK? Je vous pose cette question-là et quatre autres questions après la pause. On s'arrête.